Bonsoir. Deux sujets et un moment de commentaire au choix constituent l'ossature de notre tribune de presse de ce soir. La conférence de presse du président de la République d'il y a une semaine. Dans cette conférence de presse organisée vendredi dernier à Kinshasa, Joseph Kabila, tout en ne se prononçant pas sur sa candidature éventuelle au troisième mandat, a confirmé la tenue des élections en RDC. Le président Kabila a aussi critiqué le travail de la MONUSCO, déclarant que la MONUSCO n'a jamais vaincu aucun groupe armé en RDC. L'analyse de nos invités dans un instant. Notre second sujet ce soir, c'est cette commémoration. Il y a une année, mourait le président de l'UDPS. Étienne Tshisekedi est mort le 1er février 2017 en Belgique, selon le rapport officiel d'embolie pulmonaire. Encombrement foudroyant des vaisseaux sanguins, mais depuis ce décès, son corps n'est jamais revenu en RDC et reste donc encore en Belgique. Le gouvernement congolais et la famille du leader Maximo n'ayant jamais réussi à se mettre d'accord sur les modalités de son rapatriement et enterrement. Pour évoquer ces sujets, la sélection est composée de Marcel Ngoy, journaliste éditeur du journal La Prospérité, Paressa à Kinshasa. Marcel Ngoy, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Donat, bonsoir à tous.
Vous aussi à Kinshasa, vous êtes directeur des informations numériques à la radio-télévision Groupe L'Avenir, RTGA en sigle, émettant depuis Kinshasa. Et enfin, Gaston Mouchid, journaliste directeur général de la radio-télévision Manika à Kolwezi, province de Lualaba. Gaston Mouchid, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Tribune de la presse ce soir, c'est aussi Alain Hirung à la réalisation, Sylvain Baogueré à la technique, Donat Madimba, c'est moi. À vous tous, bienvenue dans votre émission. Nous ne retenons donc que deux sujets pour notre débat de ce soir, mais l'actualité de la semaine a été très riche en événements. Et pour alimenter notre conversation de tout à l'heure, écoutons avec plaisir cette revue de presse que nous propose Alain Hirung.
Bonsoir. La commémoration du premier anniversaire du décès d'Étienne Tshisekedi par ses proches est l'un des sujets qui alimente les commentaires de la presse quinoise cette semaine. Trois messes d'action de grâce organisées par les partisans de l'UDPS, toutes tendances confondues, en vue d'honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, constate Dépêche.cd. Pour sa part, le rassemblement que dirige Joseph Olenganko a fixé pour vendredi 2 février 2018 la messe d'action de grâce en l'honneur d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba à 13h30 à la cathédrale Notre-Dame du Congo relève l'avenir, expliquant que c'est pour éviter de perturber le programme déjà établi par l'UDPS et la famille du défunt pour ce jeudi 1er février 2018. Pour le potentiel, Joseph Olenganko vient simplement de se désolidariser de Bruno Tshibala en organisant une messe en mémoire d'Étienne Tshisekedi un autre jour que celui proposé par le Premier ministre. Le quotidien note que les deux frondeurs du rassemblement étalent maintenant leur divergence sur la place publique. De son côté, le ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a d'ores et déjà fait savoir qu'il sera absent aussi bien à la cathédrale Notre-Dame du Congo qu'à la paroisse Notre-Dame de Fatima, renseigne de son côté le Phare. Le Soft international constate simplement que Tshisekedi n'a pas réuni un an après son décès. Le confrère estime en effet que ce premier anniversaire du décès de l'opposant n'a réussi à réunir ni sa famille, ni sa formation politique. Un autre sujet qui a suscité des commentaires cette semaine, c'est le point de presse du président Joseph Kabila, organisé vendredi dernier devant la presse. Le président Joseph Kabila s'est adressé à la population congolaise à travers la presse parce que selon lui, depuis plusieurs années, on a tout dit à cette population sauf la vérité, relève d'entrée l'avenir. Scrutant ce point de presse, le Phare ne retient que des flèches du président à l'endroit de ses détracteurs. À ceux qui avaient par exemple parié sur la disparition, le démantèlement de l'État congolais, le président congolais leur a fait savoir que le Congo existe toujours et qu'actuellement le pays parle du troisième cycle électoral. Pour Joseph Kabila donc, la Belgique, l'Église catholique et l'opposition devraient se taire, analyse pour sa part le potentiel. Durant son adresse à la nation, en effet, Joseph Kabila n'a fait que rappeler aux uns et aux autres qu'il n'avait de conseil à recevoir de personne et qu'il n'accepterait en aucun cas le dictat d'où qu'il vienne, commente le quotidien. Bref, déduit le tabloïd, il a demandé à ses pourfendeurs de la boucler concernant le complot et les méthodes fortes dont on l'accuse.
Merci Alain Hiron. Commençons par celui qui est loin de Kinshasa, celui qui est loin de la capitale. Outre les sujets que nous comptons aborder dans l'émission de ce soir, y a-t-il dans cette abondante actualité de la semaine un sujet que vous auriez aimé commenter? Directeur général de la radio-télévision Manika en province, de Lualaba, Gaston Mouchid, quel est votre commentaire?
Les commentaires, c'est l'arrivée à Kolwezi du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Et l'objectif, c'était de vulgariser la loi électorale et le calendrier électoral avec, bien sûr, la machine à voter qui a été montrée au public et différentes forces vives de la ville de Kolwezi, de la province de Lualaba, étaient présentes à cette réunion qui s'est tenue ce mercredi avec les amis de la CENI et les experts qui sont venus de Kinshasa.
Ok, à part cette actualité, quelque chose d'autre aurait retenu votre attention?
Ce qui devrait avoir retenu l'attention de beaucoup de gens, c'est également les obsèques de Kim Tshisekedi qui traînent. Voilà. En Europe, ce qui est dit et au pays, nous souhaitons bien, comme ça, un thème à débattre, je pense que nous allons y arriver.
Jean-Pierre Kayembe, votre commentaire.
Bon, je crois que la plus grande actualité, à l'instar de sujets que nous allons traiter tout à l'heure, c'est la clôture de l'opération d'enrôlement des électeurs avec cette moisson abondante de la commission électorale, près de 46 millions de Congolais qui ont été enrôlés. Donc, c'est un bon signal qui prouve que le cap est véritablement mis sur les élections.
Alors, Marcel Ngoy, en face de moi, quel avant-goût nous proposez-vous à part les deux autres sujets que nous comptons aborder ce soir?
Oui, c'est ce commentaire qui va dans tous les sens autour de la présence suspecte d'un élément soi-disant de la police ou de l'armée, au niveau du centre Lindongue, là où loge, où est logé, où réside le cardinal Laurent Motsengo. Et donc, on croit savoir que les manifestations organisées ou initiées par le comité laïque de coordination, aujourd'hui, ces manifestations continuent à produire leurs premiers effets sur l'Église catholique, sur les autorités ecclésiastiques. Donc, les commentaires vont dans tous les sens autour de ça. Et je pense aussi que l'occasion nous sera donnée pour aborder les deux sujets qui, à mon avis, sont deux sujets qui sont riches en termes de matière.
Allons donc à ces sujets. Le tout premier, le président de la République a tenu une conférence de presse il y a une semaine à Kinshasa. Et dans cette conférence de presse, Joseph Kabila a abordé plusieurs sujets comme son bilan de 17 ans, de son pouvoir qu'il présente comme positif, les élections à République démocratique du Congo qu'il confirme pour cette année 2018 ou encore le travail de la MONUSCO qu'il critique. Écoutons un extrait de cette conférence du président de la République de plus de 2 heures, extrait proposé par Alain Hiron.
Mais bien avant d'aborder le processus électoral, la question de savoir pourquoi est-ce que l'on n'a pas organisé les élections à temps, comme prévu. Il y a ceux qui pensent que c'est de la mauvaise foi, manque de volonté politique, manque de vision. La vérité, c'est que les élections n'ont pas été organisées à temps. C'est parce que en 2012, immédiatement après les élections de 2011, les résultats annoncés, le pays était confronté à une situation inédite. En 2012, on avait la ville de Goma occupée par un mouvement M23. Dans cette même ville de Kinshasa et au niveau du Parlement, la demande de la population et de tout le monde, c'était qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation à l'Est ou au Nord-Kivu. Effectivement, on avait tout arrêté et on avait orienté le moyen pour défendre la République, défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité du territoire national menacé. Et pendant 18 mois, on avait orienté le moyen dédié à la CENI, présidence, même le Parlement, on avait effectivement orienté le moyen vers cet objectif, reconquérir et la ville de Goma et une partie du territoire national au Burkina. Et une année après, c'était chose faite. Est-ce que je regrette cette décision? La réponse est non. C'était la bonne décision. Et avec cette décision, on avait effectivement repris le contrôle de la ville de Goma et du pays d'une façon générale. Alors, il fallait bien préparer le troisième cycle électoral et très bien préparer les élections.
Alors, Marcel Ngoï, de nous trois, vous êtes celui qui était au plus près de cette actualité. Le président Kabila parle en bien de lui-même et critique avec virulence tous les autres. Votre commentaire?
Oui, je voudrais d'abord saluer ici la sortie médiatique du président, parce que ça a été une grande surprise. Ce n'était pas un événement annoncé d'avance, et que ça fait plusieurs années. La dernière fois que le président de la République a été face à la presse, ça remonte à 2012. Mmh. Il y a plus de cinq ans. Mmh. Et il ne faut pas mettre 5 ans pour communiquer, pour parler avec les médias, pour répondre aux questions, mais ça a été le cas, malheureusement.
Donc
mais
vous y êtes allé avec enthousiasme?
J'y suis allé sans savoir que c'est le président qui allait parler. Parce que pour une conférence qui devait se tenir à 11h, moi j'ai eu les coups de fil à 10h15 pour me pointer. Donc, c'était un effet de surprise réussi de son côté et je salue justement sa sortie. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut comprendre quel est l'objet de la crise. Parce que lorsqu'on est président de la République et qu'on doit s'exprimer, il faut que, après que vous ayez parlé, qu'on puisse voir s'il y a eu des avancées ou pas. Pour cela, je me réfère un petit comeback. En 2016, il y a eu crise parce que il y avait la non-tenue des élections dans les délais prévus par la Constitution. Parce qu'il fallait qu'on puisse instituer une transition qui n'était pas prévue par la Constitution. Parce que le mandat du président Kabila arrivait à terme le 20 décembre 2016 et donc il terminait son deuxième et dernier mandat. Donc il fallait résoudre cette crise-là et c'est pour cette raison que tous les autres sociétaires de la classe politique, il fallait maintenant dialoguer pour trouver un mécanisme de gestion de l'après-mandat du président de la République. C'est comme ça que les gens sont allés d'abord à la cité de l'Union africaine et puis ils se sont retrouvés au niveau du centre interdiocésain. En 2017, la même crise de 2016 a été pratiquement décalée. On s'est retrouvé avec 12 mois de rallonge ajoutés au président Kabila et donc les élections prévues en 2017, fin décembre 2017, n'ont pas eu lieu. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi avec une sorte, soit de continuité ou de transition, mais au-delà, sans mandat précis, c'est le calendrier qui permet maintenant ce glissement.
Mais avec ce paysage, Marcel, est-ce que vous donnez raison au président de la République qui voit tout son bilan de 17 ans positif?
Je suis en train de penser que en 2018, on va avoir une autre crise. Cette crise sera une crise des élections qui seront organisées, si tout va bien, mais cette fois-là sous une forte contestation. Parce que le décor qui est planté, c'est un décor qui ne permet pas la participation de tous, les chances qui n'offrent pas les chances égales à toutes les parties prenantes.
Mais vous semblez émettre des réserves, vous ne croyez pas au président quand il dit, quand il confirme que la présidentielle notamment et les élections prévues auront lieu cette année.
Les élections auront lieu. Si tous les moyens sont réunis, les élections auront lieu. Mais cette élection que les opposants, l'aile dure de l'opposition conteste du fait de la loi électorale qui a été adoptée dans les conditions que vous connaissez, et cette loi est attaquée devant la Cour constitutionnelle, du fait du calendrier qui n'a pas requis le minimum de consensus qu'il fallait pour que les gens apportent leur contribution, leur point de vue, et du fait, bien sûr, de la machine à voter qui vient faire l'intrusion dans les systèmes, mais aussi du fait de la non-redynamisation de la CENI qui était prévue par l'accord.
Alors, il nous reste, nous sommes en février.
Il était question de redynamiser la CENI.
Il reste 10 mois avant décembre.
L'audit de la gestion de la CENI et aussi l'incorporation, l'intégration dans cette CENI pour la fiabilité des résultats des gens venus de l'opposition.
Alors, Marcel, ça c'est une rhétorique que les experts rabâchent à la population tout le temps, puisque nous parlons des questions essentielles et qu'on reproche même au président de la République de ne pas avoir répondu à certaines préoccupations de la population. Il dit que les élections auront lieu cette année, donc plus tard en décembre. En tenant compte des 10 mois qui restent, vous voyez ces élections se tenir?
Moi, je suis en train de penser que les élections en question sont hypothéquées. Parce que une chose est d'organiser les élections, une autre, c'est de pouvoir installer les institutions issues de ces élections dans les conditions acceptables. Une chose est d'aller aux élections, mais il faut s'assurer que toute la classe politique est favorable à la tenue des élections selon le processus qui est mis en place. Or ici, il y a des conditions qui avaient été posées pour que ces élections soient fiables. Pour que ces élections aboutissent aux résultats qui sont acceptables.
À ce jour,
on
ne voyait pas.
On a dit qu'il fallait décrisper la situation, c'est-à-dire offrir à tous les compatriotes. C'est même ça pour ça qu'on est allé au dialogue. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller au dialogue et en même temps revenir s'enfermer dans des convictions personnelles. Moi, je crois que la sortie du président de la République n'a pas résolu le problème de fond.
Donc le président,
notamment
lui pose
l'aspect
question,
de la décrispation politique,
on lui pose
l'aspect aussi de la redynamisation, tous les aspects qui étaient prévus, parce qu'en fait, pour la plupart, l'accord de la Saint-Sylvestre est appliqué jusqu'ici de façon sélective.
Alors, on lui pose
le président
aussi,
a souhaité débaucher et prendre les gens à qui il a donné une portion importante du pouvoir en partageant, en donnant le gouvernement ainsi que certaines structures, au mépris de ceux-là qui avaient négocié avec lui.
Alors, Jean-Pierre Kayembe, votre réaction?
Bon, je commence par féliciter le président Kabila qui est sorti de ses réserves. Vous savez que dans un pays où on a connu le maréchal Mobutu, aussi tonitruant qu'il a été, Kabila a plutôt choisi un style à l'opposé où il estime qu'il ne peut parler que quand il a des mots plus forts que le silence, même si il est tenu constitutionnellement de s'adresser à la population via le Parlement réuni en congrès. Dans ce qu'il a dit, moi je note que le chef de l'État a coupé court aux spéculations. Il a tué les soupçons autour des intentions qu'on lui attribuait de vouloir se maintenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Donc, le président Kabila a en quelque sorte répondu aux laïcs catholiques et aux autres groupes de pression, notamment la communauté internationale, qui pense qu'il n'est pas engagé sur la voie des élections. Bon, les gens aimeraient, auraient bien voulu qu'ils disent qu'ils ne se représentent pas, mais ceux qui ont lu l'interview que le ministre Mende a accordée à nos confrères de la Voix de l'Amérique ont vu clairement que le président Kabila, mais bon, ils veulent qu'ils les disent en quelle langue quand il dit clairement que la Constitution sera respectée. Quand vous voyez sur le plan pratique ce qui est en train de se faire au niveau de sa famille politique, la mobilisation, le rappel des troupes et tout ça, ça prouve à suffisance que la page Kabila est en train progressivement d'être tournée.
Mais Jean-Pierre,
je suis là, oui.
Mais
là,
la
oui.
Langue la plus claire que le président aurait pu utiliser, c'est de dire « je ne me représenterai pas ». Ça ne coûte vraiment pas grand-chose de le dire, non?
Ça ne coûte pas grand-chose. Vous voulez mettre le parole dans la bouche du président, mais quand le président vous dit que les référendums ou n'importe quelle autre initiative ne sont pas prévues à la fois dans l'accord signé le 31 décembre, ben, vous voulez qu'il les dise combien de fois? Je crois qu'on n'est pas assez médiocre pour ne pas emprunter ce mot qui fait polémique, pour ne pas comprendre certaines choses.
Je réagis encore, mais que pensez-vous d'un président qui dit nous allons reconstruire la RDC, dans 3-4 ans nous allons faire des infrastructures, toutes ces choses-là, est-ce que vous ne comprenez pas aussi que de l'autre côté, l'opposition puisse lui prêter l'intention de ne pas céder la place à un autre?
Non, mais vous savez que on gère en imaginant ce que peut être le pays dans 2, 4, 5 ans, 16 ans de projection. C'est pas pour rien que vous voyez à l'étranger ou ailleurs, un président en fonction peut signer un contrat qui peut aller jusqu'à 2040, alors que lui, son mandat n'est que de 8 ans. Donc vous comprenez, vous n'allez pas empêcher au président de la République de pouvoir imaginer ce que pourrait être le pays. Après tout, il se dit que sa famille politique peut aller à ces élections, les gagner et continuer proprement le projet de société que la majorité présidentielle a proposé au peuple congolais. Moi, je trouve que ce débat n'en est plus un. Aujourd'hui, les signaux sont clairs. Je vous parlais de la commission électorale qui a publié le mercredi, qui a clôturé officiellement le projet, le processus d'enrôlement des électeurs. Nous avons maintenant la loi électorale qui est disponible. Vous avez la loi des finances qui a été rendue publique, qui a été promulguée. Et donc, nous avons des signaux forts. Et je crois que ceux qui continuent à tergiverser, ceux qui continuent à crier, mais pourtant, vous savez, moi j'aurais souhaité, notre classe politique, c'est là que je trouve que notre classe politique est malhonnête, parce que on a fait des marches dans ce pays pour réclamer le calendrier électoral. Des gens sont morts dans ce pays parce qu'on ne voulait pas que la publication de que la date des élections soit conditionnée, par exemple, par le référendum, pardon, par l'identification, le recensement et tout ça. Donc moi je pensais que la publication du calendrier électoral pouvait apaiser, mais j'ai l'impression que ces gens, à la fois une partie de la classe politique et la communauté internationale, ne s'inscrivent pas dans la logique des élections. Le président Kabila l'a dit, vous savez qu'en 2011, des gens sont allés le voir pour demander que pendant qu'il était déjà en campagne, pour lui dire qu'on poste. Les élections. Donc vous comprenez que le problème est ailleurs maintenant. Alors moi je crois que ceux-là vont continuer à tergiverser et on va convoquer le corps électoral entre juin et juillet et c'est là qu'ils seront pris des coups et ils se préparent à la contestation, ça c'est évident.
Alors en un mot, Jean-Pierre, le journal de l'entreprise qui vous emploie a titré le président Kabila convaincant. C'est aussi ce que vous dites.
Je crois bien que le chef de l'État, moi je l'ai trouvé encore beaucoup plus mature qu'on l'imaginait et qu'il s'est exprimé à cœur ouvert. À mon avis, le président Kabila a été convaincant.
Alors Gaston Mouchide, le président Joseph Kabila, trop virulent, a-t-il réglé des comptes ou pas?
Ah oui, en quelque sorte. Le chef de l'État, c'était déjà une bonne chose que le chef de l'État s'exprime devant la presse hein, depuis 5 ans pour parler de 17 ans de son accession au pouvoir dans ce pays. Le président a cité un certain nombre de points. Par exemple, quand il dit « le processus électoral est résolument engagé », c'est une bonne chose, c'est une bonne intention que le processus soit résolument engagé. Mais là où les gens sont dubitatifs, c'est notamment, par exemple, par rapport à sa lenteur. Quand est-ce qu'on va enrôler les Congolais de l'étranger? Parce qu'au Kassai, on a dit qu'il y avait insécurité. Aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on ne les enrôle pas? Est-ce que ça ne sera pas un prétexte pour pouvoir rallonger? Nous avons une loi électorale qui a été adoptée dans des conditions controversées. Une loi qui est attaquée devant la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas encore prisé l'essentiel des accords de la Saint-Sylvestre, qui parlait notamment de la décrispation des climats politiques. Vous savez que nous allons aller aux élections avec des opposants qui sont en prison, avec des activistes de droits de l'homme qui sont arrêtés, avec des politiciens qui sont en exil, et nous avons des partis qui sont dédoublés. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, ce sont des couacs qui risquent de ne pas avoir des bonnes élections? Dans les accords, il a été clairement dit que les problèmes de crispation des climats politiques devraient être confiés aux magistrats et à la CENCO pour vider le fond. Mais apparemment, ça n'avance pas. Vous avez suivi les conclusions de la CENCO et les hauts magistrats ne se prononcent toujours pas. Et le chef de l'État, à cette question, il a parlé de 10 000 prisonniers ou de 10 millions de prisonniers, alors que la liste ne donne pas 10 millions. Nous avons des médias qui sont toujours fermés. Les radios et les télévisions de membres de l'opposition qui sont toujours fermées, qui étaient pourtant dit qu'ils allaient être ouvertes pour que les climats soient assainis. Il y a là de problèmes qui risqueraient d'arriver si on ne les vide pas, nous n'allons pas avoir de bonnes élections. Nous avons, le chef de l'État a parlé de relations avec les cocos, le Belge. J'ai beaucoup aimé quand il a dit, il a insisté sur la souveraineté, en référence notamment au bras de fer diplomatique qui lui oppose à la Belgique. Mon pays n'est pas à vendre, la RDC doit être respectée, a dit le président. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas dit la même chose et ne le fait pas de la même façon avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, qui spolie nos terres, qui viole nos femmes, qui tue nos compatriotes et pille nos minéraux. Nous voulons bien qu'une telle détermination du chef de l'État puisse se passer partout pour qu'on nous respecte. Mmh. Aujourd'hui, ne respecte pas parce que les Rwandais peuvent venir chez nous, prendre ce qu'ils veulent. Les Ougandais, n'en parlons pas. Les Burundais, il faudra, à mon avis, que le chef de l'État et son gouvernement soient forts.
Gaston Mouchid.
Que le pays n'est pas à vendre et qu'on ne les vende pas à tout prix.
Gaston Mouchid.
Parlons des infrastructures.
Gaston.
Oui, je vous écoute.
Gaston, mais le président dit par exemple que la MONUSCO n'a pas vaincu aucun groupe armé. Quel est ton point de vue?
Là-dessus, je suis bien d'accord avec le président, même si en complicité avec la FARDC, la MONUSCO a bouté hors du territoire national le M23.
Mais est-ce que c'était la mission
au budget? Vous savez que la MONUSCO.
Allô, Gaston. Oui, mais est-ce que c'est la mission de la MONUSCO de garantir la sécurité intérieure de la RDC? Ça, c'est la mission des FARDC.
Ah, bien évidemment. Mais combien de fois est-ce qu'on a changé la mission de la MONUSCO, MONUC, MONUSCO et tout ça? On a changé, on a demandé à ce que la MONUSCO est là pour protéger les civils. Mais combien de fois les civils sont tués? Nous avons connu une guerre, la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. On a tué à l'Est autour de 5 millions de nos compatriotes, au vu et à la barbe de la MONUSCO. Vous avez vu la MONUSCO au moment des manifestations du 31 et du 21 passé. La MONUSCO était là en train de faire des photos alors qu'il y a des gens qui ont été tués. La MONUSCO a un budget de plus d'un milliard de dollars. La MONUSCO a une force constituée de plusieurs militaires. Mais pour un bilan, le bilan de la MONUSCO est mitigé. Je pense que le chef de l'État avait bien raison de rappeler que la MONUSCO devait faire ce qu'elle doit faire. Parce que si les Congolais continuent à être tués, même si la FARDC, parce que si la FARDC était à même de se défendre, on n'allait pas avoir une force aussi importante de la MONUSCO.
Alors,
si elle est là, elle doit faire son travail, donc sécuriser les civils.
Alors,
donc je vais continuer avec le point de presse du chef de l'État, si vous permettez, Donat.
Très rapidement, quelques secondes.
Le président de la République a parlé des infrastructures. Il a dit il y a longtemps, la ligne Kolwezi-Lubumbashi était impraticable, elle est là, mais non praticable parce qu'asphaltée. Mais il y a aussi d'autres problèmes, notamment les routes de Dilolo, Kassaji, Sando, Akapanga, Lubudi, les routes de dessertes agricoles de toute la République sont vraiment à désirer. Il devait y avoir beaucoup d'efforts dans ce sens-là. La SNCC, qui est une société d'État, aujourd'hui, a autour des 60 mois d'arriéré des salaires des agents. Donc, il y a de sérieux problèmes vis-à-vis des infrastructures.
Qui mérite...
Moi, je voulais que le chef de l'État...
Mm-hmm. Un mot,
vous parle de son bilan.
Merci.
Oui, je finis. Mm-hmm. Le bilan, la Constitution est là. Il y a les 40% qui doivent revenir aux provinces. Les gouverneurs continuent à demander cet argent qui ne vient pas parce que gardé au pouvoir central. Il y a aussi les 5 chantiers dont il a fait des slogans.
Alors Gaston Mouchid, vous parliez des vies perdues tout à l'heure. Cela nous amène directement à notre deuxième sujet de cette émission de ce soir. Le second thème de notre émission, il y a une année, mourait le président de l'UDPS, principal parti de l'opposition à RDC. Étienne Tshisekedi est mort le 1er février 2017 en Belgique, selon le rapport officiel d'embolie pulmonaire. Mais depuis ce décès, son corps n'est jamais revenu en RDC et reste donc encore en Belgique. Le gouvernement congolais et la famille d'Étienne Tshisekedi n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur les modalités de rapatriement et d'enterrement. Une situation que le fils du défunt et successeur de celui-ci à la tête de la coalition de l'opposition, Félix Tshisekedi, impute à la mauvaise foi du gouvernement. On l'écoute.
Il s'acharne sur la dépouille de notre leader uniquement par vengeance.
On se souvient qu'en dernier lieu, un compromis a été trouvé pour sceller. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'était de la mascarade. Ils nous ont menés en bateau. Ce compromis que nous pensions être un compromis n'en était pas un en réalité. La preuve est là. Lorsque nous avons signé ce communiqué, nos délégations, nos deux délégations, celle de la famille biologique et de la famille politique, nous pensions que celle qui était représentée par le ministre de l'Intérieur allait signer. On a couru 2 mois derrière lui pour qu'il appose sa signature. Et lorsque ma mère a fait une sortie médiatique sur TV5. À ce moment-là, il a apposé sa signature, mais ils ont jeté ce courrier dans les réseaux sociaux pour que nous en soyons informés. Mais d'eux-mêmes comme ça, ils n'ont même pas eu la décence, et encore moins la politesse, de venir nous le dire eux-mêmes. Donc c'est pour vous dire l'état d'esprit qui les anime, le mépris qu'ils ont pour nous et surtout pour la dépouille de notre leader. Mais bon, ça, c'est ça qui nous pousse maintenant à vouloir faire les choses nous-mêmes.
Autre son de cloche, Dieudonné Mouinze, cadre du PPRD, principal parti présidentiel, parti de la majorité donc, contredit Félix Tshisekedi. Il affirme qu'en lieu et place de la famille biologique qui devrait prendre le devant dans l'organisation des funérailles d'Étienne Tshisekedi, on a plutôt vu une grande influence du parti politique. Dieudonné Mouinze, au micro de Guy Maté, il était invité dans l'émission Dialogue entre Congolais de mercredi dernier, portant sur les funérailles d'Étienne Tshisekedi.
Il se fait que ce soit le gouvernement ou le parti politique IDPS. Ils ne viennent que pour donner un coup de main à la famille d'Étienne Tshisekedi. Mais ce que nous avons vécu, c'est autre chose. On ne voit pas l'influence de la famille biologique. Vous n'allez pas me dire le contraire, même l'opinion ne me dira pas le contraire. On voit très rarement l'influence du gouvernement, qui en principe ne veut pas organiser les funérailles de Étienne Tshisekedi. Mais on voit beaucoup plus l'influence de son parti politique. Son fils n'a pas parlé comme son fils. Il a parlé comme secrétaire général adjoint du parti. C'est vous dire qu'ici, le débat s'est déplacé. Il n'est plus un débat de l'organisation des funérailles de quelqu'un qui a vécu de manière digne, d'ailleurs, il faut le souligner, et qui doit être honoré après sa mort. Mais le débat se déplace pour que les affaires des funérailles soient transformées en affaires politiques.
Dossier signé Alain Irung. Marcel Ngoy, journaliste éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Pourquoi, selon vous, pourquoi cette cacophonie pour un deuil?
Oui, mais parce qu'on a politisé. Parce que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Quelques jours auparavant.
Qui a politisé? Il se renvoie la balle, la famille, le gouvernement.
Les parties prenantes à l'organisation des funérailles sont tombées dans le piège de la politisation de cette affaire.
Pourquoi?
Des funérailles. Et donc, nous disons que Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Peu de jours avant, et c'était le 26 janvier, lui est mort le 1er février. Le 26 janvier, il devait être installé par les évêques comme président du CNSA. Et donc, Tshisekedi, sa mort, vous le savez, a contribué aujourd'hui à tout ce qu'il y a eu comme raté par rapport à la conclusion de l'arrangement particulier qui aurait pu accompagner l'accord de la Saint-Sylvestre. Mmh. Vous savez aussi qu'après son départ, il y a eu ce qu'on a appelé l'émiettement du rassemblement. Donc, Tshisekedi, ce n'était pas n'importe quel homme.
Selon vous, le gouvernement...
Pour moi...
Selon vous, le gouvernement n'a pas encore réalisé ses obsèques. Pourquoi?
Pour des raisons que je voudrais évoquer en disant qu'il y a eu d'abord ces exigences de la famille politique et biologique du leader qui voulait qu'on puisse inhumer Tshisekedi au siège du parti.
Est-ce que ces exigences sont tenables?
Ça a pris du temps.
Est-ce que c'est tenable
déjà? Passons. Nous pensons que finalement il y a eu un compromis pour qu'on puisse inhumer Tshisekedi dans la périphérie de la ville.
Alors on dit,
il fallait prendre des dispositions.
On dit beaucoup des exigences de la famille. Est-ce que vous en savez quelques-unes?
Parmi les exigences, il était question que la famille avait rejeté, par exemple, cette histoire de l'inhumation de Tshisekedi à l'entrée du cimetière de la Gombe. Et finalement, il y a eu un compromis pour qu'on puisse l'inhumer dans une concession privée en selle.
Vous comprenez ce refus de la famille?
Non, mais c'est la famille qui avait finalement marqué l'accord de principe.
Mais selon vous, votre analyse, vous pensez...
Qu'on puisse l'inhumer en selle. Mais qu'est-ce qui a bloqué la machine? Pourquoi, lorsqu'on arrive à l'étape où il faut signer un communiqué, l'officialiser, faire en sorte que les funérailles soient dignes, et ça se bloque. À quel niveau? Alors, j'ai cru comprendre que les deux parties prenantes à l'organisation de ces obsèques se rejettent mutuellement la balle. Moi, je recommande que maintenant que tout le monde a pris conscience que c'est vrai que tout homme mourra, mais que toutes les morts n'ont pas la même signification, il faudra qu'on attribue, qu'on donne à Tshisekedi de la place qu'il faut. Tshisekedi, c'est un leader des leaders.
Alors, vous comme analyste et comme citoyen, vous souhaiterez savoir que Tshisekedi est enterré où?
Non, je n'ai plus de choix dès lors qu'il y a un accord de principe qui est trouvé pour qu'on l'inhume en scellé. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement et la famille biologique ou politique prennent des dispositions pour encadrer l'arrivée de la dépouille.
Apparemment...
Il y a une année que maman Marthe est en deuil. Et un des plus proches de l'UDPS, c'est celui qui gère l'UDPS au niveau de la Belgique, vous dit que ça fait 16 000 euros qu'il faut payer au funérarium pour garder le corps de Tshisekedi. Et qu'une femme, si la femme de Tshisekedi, depuis plus d'une année, elle porte le deuil. Donc toute la famille. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement, la famille politique, la famille biologique, arrive finalement à comprendre que on ne gagnait pas forcément des postes politiques, tout comme on ne peut pas forcément perdre un pouvoir parce qu'on devait inhumer un homme de la trempe de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est notre Mandela ici, il faut l'honorer, il faut vider ce dossier. Ici, on a l'habitude de verser dans l'hyperbole politique. On prend parfois les choses qu'on peut régler, on en fait des problèmes qui deviennent monumentaux.
Jean-Pierre Kayembe, responsable des informations numériques à Radio-Télévision Groupe L'Avenir, RTG en sigle, est-ce que le pouvoir de Kinshasa n'est pas trop maniaque pour rien? Pourquoi compliquer un enterrement?
Écoutez, cher Donat, je voudrais commencer par exprimer ma compassion à l'endroit à la fois de la famille et de la République qui ont perdu, la famille et la République qui ont perdu cette icône, et dénoncer cette cacophonie entretenue autour de cette dépouille que l'on... dénoncer cette espèce de vouloir marchander.
Alors,
je veux dire,
les commentaires disent que c'est le pouvoir qui complique, c'est le gouvernement qui ne veut pas faciliter les choses. Qu'est-ce que vous donnez comme réponse à ça?
Bon, je crois que jusque-là, des responsabilités sont partagées, mais côté gouvernemental, je sais néanmoins que des choses étaient avancées à un moment donné. Je sais même que des travaux avaient déjà commencé au niveau du cimetière de la Gombe, où un espace avait été réservé pour sa sépulture. La famille a rejeté. Mais je sais qu'il y a souvent, il y a eu de préalables, notamment la nomination de Félix. Ça, les gens ne le disent pas, il faut qu'on se le dise. Je sais qu'à un moment donné, les gens au niveau de l'UDFS, ils ont dit on n'enterre pas Tshisekedi tant que son fils n'aura pas été nommé Premier ministre. Ça, c'est évident, on ne doit pas se voiler la face.
Est-ce que ça, c'est pas des commentaires un peu isolés? Est-ce que cette revendication a vraiment été mise sur la table?
Je crois que la revendication était bien là et qu'elle a évolué au fur et à mesure. Mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, au niveau de la famille, au niveau du parti, ils doivent tous transcender leurs divergences, tisser le pont par-dessus leurs frontières et trouver un compromis, parce que vous imaginez la honte que ça fait que quelqu'un de la trempe de Tshisekedi, icône, monument, symbole de la lutte pro-démocratie, que ça, depuis, soit gardé au froid pendant une année. C'est à la fois honteux pour sa propre famille, honteux pour notre pays. Moi, je crois qu'au-delà de toute considération, je crois que si j'ai un conseil à donner à quiconque, c'est qu'ils doivent se retrouver encore une fois au niveau de la table de discussion, au niveau de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur, ça avançait bien, et qu'on finalise cette histoire, que tu sais qu'il y vienne, qu'il soit pleuré comme
il se doit.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Voilà,
parce que le risque, c'est quoi? J'attirerai. Le risque, c'est que l'UDPS veut que Tshisekedi soit inhumé au niveau de son siège. Mais cela, c'est le rabaisser. Parce que nous, par exemple, qui ne sommes pas de l'UDPS et qui voudrons aller nous incliner, par exemple, sur sa tombe, l'accès ne nous sera probablement pas accordé. Donc, il faudrait que Tshisekedi soit inhumé dans un lieu public, dans un lieu
accessible.
Mais comme finalement ils ont trouvé un compromis pour qu'il soit enterré au niveau d'un scellé, je n'ai pas de problème. Le plus important, c'est qu'il vienne et qu'il y ait des hommages dignes de la lutte qu'il a menée pendant 40 ans de vie.
Lui soit rendu. Gaston Mouchid, journaliste directeur général de la radio-télévision Manika Kolwezi, province de Lualaba. Gaston, est-ce que les Tshisekedistes veulent vraiment enterrer leur héros ou l'utilisent-ils tout le temps comme monnaie d'échange ou comme arme à pression?
Bon, il faut dire d'abord que c'est dommage.
C'est un peu aussi dommage pour nous de perdre notre collègue qui était en train d'exprimer son propos. Je crois qu'on va le rattraper. Je donne la dernière parole à Marcel Ngoy pour sa conclusion. Marcel, quel est l'élément nouveau ou supplémentaire que vous aimeriez ajouter à nos deux sujets, le premier comme le deuxième?
Oui, je crois que l'heure est arrivée. Cette année est une année déterminante. Nous sommes le 1er février, nous venons de perdre un mois sur le 12 que compte l'année 2018. Il faudra que de part et d'autre que les dispositions soient prises pour que le rendez-vous du 23 décembre ne soit plus un gâchis. Et pour ce faire, il faudra que ceux qui ont les manettes du pouvoir puissent aller dans le sens de l'application effective, complète, intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce qui suppose que les autres volets, même s'il faut pas qu'on passe du temps à pérorer autour du partage de postes de responsabilité, mais il faudra néanmoins que l'environnement politique soit dépollué, de façon qu'on puisse garantir la libre participation de tous les acteurs à ces processus-là électoraux. J'aimerais ici qu'on puisse promouvoir l'idée que les manifestations publiques doivent être garanties, que les droits de l'homme soient respectés, et qu'on ne puisse pas profiter de ces temps pour créer une déflagration des relations entre la République démocratique du Congo et les partenaires extérieurs, dont la Belgique et les autres États du monde. Je crois qu'il faut qu'on y arrive, parce que finalement, après les élections, il y a une vie pour ces Congos.
Marcel Ngoy, je vous remercie. Nous revenons à Gaston Mouchid, que nous avons réussi à retrouver. Alors Gaston, les pro-tshisekédistes veulent-ils vraiment enterrer Tshisekedi dans le respect ou l'utilisent-ils toujours à leur profit?
Je pense qu'ils ne veulent pas l'enterrer dignement. Parce que plusieurs fois, André Kimbuta a refusé les marches ou les manifestations des opposants. Je vois Félix en tête et les autres le faire, malgré que l'État a refusé. Et je ne vois pas la famille amener les corps de Tien Tshisekedi et que le gouvernement refuse finalement que les corps rentrent. À ce moment-là, on va parler de la mauvaise foi du gouvernement. Mais pour le moment, je pense que la famille... Félix Tshisekedi, c'est un leader politique d'opposition, mais Tien Tshisekedi, c'est son père. En famille, ils s'organisent d'abord pour amener, rapatrier les corps et l'enterrer en toute dignité. Parce qu'autrement, nous avons l'impression que on les laisse là-bas pendant une année à rester. Maman Marthe va rester là-bas. Et ici, ils se comportent comme si de rien n'était. En principe, Félix Tshisekedi est en deuil. Il devait s'arrêter d'abord et faire des efforts pour qu'on rapatrie son corps, pour que le corps de son père puisse reposer en paix, comme on dit en Afrique, ça sera l'honneur qu'on peut lui rendre. On ne peut pas hériter de la politique de Tien Tshisekedi et ne pas lui donner un repos pour son âme. Ça me paraît en tout cas un peu plus compliqué.
Gaston Mouchid, je vous remercie. Jean-Pierre Kayembe, votre dernier mot. Nous avons débattu des deux principaux et importants sujets ce soir. En une phrase, votre conclusion.
Non, ma conclusion, c'est que pour 2018, l'heure n'est plus au dialogue, ni au partage de postes qui pourrait en être la résultante. L'heure est plutôt à la préparation sereine des élections, que chaque camp politique affûte les armes. L'heure n'est plus non plus à des manifestations qui cachent des objectifs obscurs. Et donc, je crois que nous devons tous nous préparer pour aller à des élections que nous espérons tous libres, transparentes, démocratique et crédible, et qui puisse favoriser pour la première fois dans l'histoire de ce pays, après 50 ans, l'alternance pacifique.
Messieurs, Radio Capi vous remercie tous les trois. Marcel Ngoy, journaliste éditeur du journal La Prospérité. Jean-Pierre Kayembe, responsable des informations numériques à la radio-télévision groupe L'Avenir RTGA. Gaston Mouchid, journaliste, directeur général de la radio-télévision Manika à Kolwezi. Alain Irung était à la réalisation. Sylvain Baogwere à la technique. Tribune de la presse. Pour ce soir, c'est fini. C'était un plaisir pour moi de vous la présenter. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.